Pour poursuivre ce tour d'horizon du festival Vrai de Vrai, nous accueillons deux invités. Agnès Lejeune, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-réalisatrice avec Gaëlle Hardy du documentaire intitulé Les mots de la fin. Et nous recevons également le docteur François Dama. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au centre de ce documentaire qui se déroule dans un hôpital public de Belgique où la loi permet le suicide assisté depuis 2002.
Lorsque quelqu'un doit faire une euthanasie, il doit avoir été convaincu, vraiment convaincu, par la personne en face de lui que c'est vraiment le meilleur dernier service à lui rendre. Le meilleur dernier service.
Même si je n'accède pas tout de suite à la réponse favorable pour le patient, ma solution à moi, c'est au moins de lui donner quelque chose, donc lui donner une relation d'écoute, de respect.
Dans les mots de la fin, on suit le parcours de différents patients, de leur demande de mort assistée pour éviter la souffrance, à l'aboutissement ou non de celle-ci. Ce sont des entretiens très touchants, authentiques, qui nous présentent une réalité différente de celle de la France. Alors je me tourne d'abord vers vous, Agnès. Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser ce documentaire ?
Bien écoutez, en Belgique, il y a 20 ans qu'une loi a été votée et qui accorde aux patients le droit à avoir une euthanasie à certaines conditions. 20 ans, c'est pas beaucoup pour qu'une population intègre, s'approprie une loi de cette nature qui était votée après des débats intenses, qui était un des grands moments de la vie démocratique de notre pays. Et il a fallu un certain temps pour que tout le monde, autant du côté des soignants que du côté des patients, puisse s'approprier cette loi. Et le projet était, finalement, notre hypothèse de travail à Gaëlle et moi, c'était d'obtenir, d'entrer dans cette consultation fin de vie pour voir un peu concrètement comment les patients confrontés à, effectivement, au terme de leur vie, peuvent construire le scénario de leur fin de vie. Alors parfois c'est l'euthanasie, parfois c'est les soins palliatifs, parfois la maladie va plus vite que tout. C'est ça que nous avons essayé de faire.
Et comment avez-vous été amené à vous rencontrer avec le docteur Damas ?
Eh bien, c'est une histoire qui a commencé effectivement en 2020. J'étais journaliste à la télévision publique, à la RTBF en Belgique. Et il y a eu dans l'hôpital du docteur Dama un événement qui était lié à une fin de traitement qui, selon un soignant, ne s'était pas bien passé. Et un infirmier a déposé plainte contre deux médecins du service des soins intensifs parce qu'il estimait qu'un des patients, en fait, avait fait l'objet d'un assassinat avec préméditation. Et le parquet s'est saisi de l'affaire. A fini par arrêter les deux médecins au service des soins intensifs. Et moi, à l'époque, j'ai suivi cette affaire qui a fait grand bruit dans la région. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir aux questions de la fin de vie. Entre-temps, le docteur Dama a écrit un livre, nous l'avons lu, on est resté en contact. Et 20 ans plus tard, je me suis dit, c'est le moment de voir comment les dispositifs mis en place peuvent fonctionner ou pas.
En France, on l'a dit, il n'y a pas la possibilité d'avoir une fin de vie choisie comme en Belgique. Donc c'est depuis 2002, à la demande du patient, qu'un médecin peut pratiquer une euthanasie si les conditions fixées par la loi sont réunies. Est-ce qu'il y a quand même des personnes un petit peu contestataires de cette loi chez vous ?
Alors cette loi s'est imposée progressivement et il a fallu s'engager dans un chemin qui n'avait pas été balisé, enfin qui était balisé par la loi, mais qui n'avait jamais été emprunté auparavant. Donc il a fallu un peu dégager un peu cette nouvelle route. Et au départ, donc, l'essentiel des instances médicales était contre, même si, grosso modo, il y avait sans doute 30 à 40% des médecins qui étaient relativement favorables, en tout cas pas opposés. Mais il a fallu que certains pionniers, quand même, s'engagent dans l'application de la loi. Et il a fallu aussi que des malades s'approprient cette possibilité. Et donc, ce que l'enseignement qu'on peut tirer après 20 ans, c'est que les oppositions se sont effacées progressivement. Et la principale opposition qui existait en Belgique et qui existe en France, c'était l'opposition des soins palliatifs, pensant que les soignants travaillant dans ces soins palliatifs pensaient que l'euthanasie était quelque chose de tout à fait antinomique avec leur pratique. Et donc, ils étaient effectivement vent debout contre la possibilité de la loi. Pas totalement néanmoins, parce que du côté de la Flandre, les soins palliatifs, ceux qui exerçaient les soins palliatifs, étaient plus favorables enfin, vis-à-vis d'une nouvelle loi. Et donc, quand cette loi a été promulguée, elle a été appliquée progressivement. Et les oppositions maintenant sont devenues extrêmement minoritaires, il y a encore des irréductibles, ça il faut bien l'admettre, mais l'enseignement principal, c'est que l'euthanasie fait partie des soins palliatifs. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. La pratique de l'euthanasie ne peut pas se faire sans soins palliatifs, et des soins palliatifs ne peuvent pas être complets s'il n'y a pas la possibilité, pour certains cas, d'aller jusqu'à une euthanasie.
Une phrase qui revient souvent dans la bouche des patients, c'est « je n'en peux plus ». Ce sont des personnes à bout, physiquement et psychologiquement. Alors, quelle est pour vous la limite entre le suicide assisté et la non-assistance aux personnes en danger ? Et comment et pourquoi on dit non à quelqu'un dans ce genre de situation ?
Alors, la relation qui s'installe entre un malade et un médecin dans une fin de vie qui s'annonce et qui est prévisible, c'est une relation de soins, évidemment. On est là pour accompagner la personne, pour lui apporter toute l'aide possible, tous les soins, tous les traitements qui sont adéquats dans la situation dans laquelle elle se trouve. Mais si, malgré les traitements et toutes les aides qu'on peut apporter, de manière d'ailleurs multidisciplinaire, faut-il le dire, faut-il le souligner, malgré tout l'entourage qu'on met en place, la personne dit « moi je n'en peux plus ». Et pour moi, ça n'a pas de sens de continuer à vivre de cette manière. Ma situation m'est devenue insupportable. Je veux y mettre un terme. Alors, si elle est bien dans les conditions, effectivement, quand ce parcours commun s'est développé sur une certaine période, on tombe relativement facilement d'accord. On convient ensemble que la solution par euthanasie est une solution raisonnable, acceptable. Et donc, il n'y a pas du tout de perspective de non-assistance à la personne en danger. Évidemment, on est là justement pour accompagner la personne dans son dernier parcours de vie, et on est là comme facilitateur du passage du dernier obstacle, s'il y en a un.
D'accord. Agnès, comment on fait pour filmer cette intimité ?
C'était la question de la réalisation de ce film. En effet, si vous avez vu le film, donc en fait, c'est un dispositif très simple, puisqu'on est dans le huis clos de cette consultation dans un hôpital, dans un tout petit bureau. D'un point de vue cinématographique, c'était pas un cadre exceptionnel, mais compte tenu des enjeux de ces entretiens, d'une certaine manière, on a choisi de rester formellement dans ce huis clos. Il y avait deux caméras, il y avait des micros qui tombaient du plafond pour que la présence des micros soit très proche des patients et qu'il n'y ait pas un perchiste qui empêche et qui vienne parasiter les dialogues entre les médecins, le médecin et les soignants, et les patients, pardon. Et nous, on était, d'une certaine manière, ce que nous avons proposé aux patients, c'était de leur demander, à l'endroit où ils étaient de leur vie, est-ce que vous estimez que vous auriez encore quelque chose à transmettre ? C'est la question de la transmission. Ceux qui ont accepté, et ceux qui ont accepté sont tous dans le film, eh bien, on a profité de ce qu'ils nous donnaient, et c'est des gens, d'une certaine manière, ils sont généreux, parce qu'ils ont accepté notre présence, et ils nous prenaient un peu à témoin des débats auxquels ils étaient confrontés. Nous avons été leur premier regard extérieur à la famille. Et le film, s'est construit autour de cette intimité-là.
Et ça apporte aussi des nuances, parce que je repense à un patient en cours du reportage qui déclare qu'il, finalement, il ne veut plus mettre fin à ses jours. Est-ce qu'on ne s'interroge pas sur la possibilité que le désir des autres patients, il puisse également être passager ?
Ah bien sûr, c'est pour ça que c'est un parcours, c'est pour ça que c'est un véritable accompagnement. L'image qu'on a de l'euthanasie, c'est l'injection létale, mais ce n'est pas ça qui est important. Je dirais, pour paraphraser un de mes amis, c'est la cerise sur le gâteau, si j'ose me permettre. Mais il y a tout le gâteau à confectionner auparavant, le gâteau relationnel qu'il faut construire. Et c'est au terme d'un parcours commun qu'effectivement, on se rend compte que l'euthanasie est quelque chose de faisable. Et évidemment, il y a une majorité relative des personnes qui font une demande d'euthanasie qui n'aboutissent pas à un dernier acte. Elles sont soulagées d'avoir des interlocuteurs et surtout des personnes qui les aident et qui les accompagnent, et pour finir, qui ne demandent pas l'euthanasie. Même si c'était leur volonté première, elles n'activent pas en quelque sorte leur demande.
Mais de savoir qu'elles ont la possibilité, c'est ça qui compte.
Et alors, effectivement, vous avez raison de le dire, de savoir qu'on peut activer quand on veut cette demande, ça permet d'affronter non seulement la fin comme elle vient, mais aussi, pour un certain nombre de personnes, d'affronter les traitements qu'on aurait hésité ou qu'on n'aurait pas voulu assumer si on ne savait pas que si ceux-ci deviennent trop pénibles, ben, on ouvre la porte qui est disponible. Et donc là, c'est quelque chose qui est de nature à apaiser considérablement non seulement la fin de vie, mais aussi l'épreuve des traitements.
Et récemment, la jeune youtubeuse française Olympe, de 23 ans, atteinte de troubles de la personnalité dissociative, a exprimé sur son compte Instagram son désir d'avoir recours à l'euthanasie en Belgique. Mais le médecin auprès de qui elle a fait sa demande la lui a refusée, selon le média Midi Libre, en jugeant que son pays ne doit pas, je cite, « devenir un mouroir où le recours à l'euthanasie est trop fréquent ». Alors, pensez-vous que la Belgique s'est vue attribuer, malgré elle, cette image ? Les deux.
Alors, moi, il ne faut pas exagérer. Hein. Il y a 650 000 décès en France, à peu près, par an, et 110 000 en Belgique. Combien y a-t-il de Français qui viennent en Belgique ? Je ne saurais pas exactement le dire, mais ça ne dépasse pas 200. Et combien est-ce qu'il y a d'euthanasies qui sont effectivement réalisées en Belgique concernant les Français ? 40, l'année passée, 40. Donc il ne faut pas imaginer que notre situation, notre pays est envahi par des quarts de personnes qui viennent à la queue leu leu sur l'euthanasie. Donc ce sont des fantasmes, ça. Alors concernant les personnes qui viennent effectivement en Belgique obtenir une euthanasie, ce sont des personnes qui sont effectivement dans des circonstances extrêmement difficiles et qui sont à respecter comme telles. Et qu'on prend en charge volontiers, parce que c'est vraiment un vrai meilleur dernier service, comme je dis dans le film, un vrai meilleur dernier service qu'on leur rend.
Oui. Et j'aurais une dernière question, parce que pour nous aussi, le temps
presse.
On l'a dit, le festival dans lequel s'inscrit les mots de la fin, il s'appelle Vrai de Vrai. Oui. On y questionne le réel à travers le documentaire. Et bah, là, on est en plein dedans, puisque ce sont donc, on l'a compris, des vrais patients qui sont filmés. Mm-hmm. Quelle importance ça avait pour vous de les filmer, eux, plutôt que des comédiens ou des comédiennes ? Enfin, parce que des fois, pour retranscrire, on peut utiliser la fiction dans
Bien
le documentaire.
Bien sûr, oui, oui. Mais ce qui nous intéressait, évidemment, c'était... Même la population en Belgique ne connaît pas vraiment l'existence de ces consultations fin de vie. Il y en a quelques-unes sur le territoire, mais bon, tout le monde n'en connaît pas le principe. Et donc, c'était important aussi, parce que le film a d'abord été fait pour la Belgique, de faire le point sur ce dispositif-là et de dédramatiser un peu et de montrer en quel point des lieux comme ceux-là permettent de trianguler avec des professionnels de la santé sur la question de la fin de vie, de sortir la mort du huis clos familial et permettent aussi parfois, on vient de le dire, de rechoisir la vie. Et il me semble que, enfin, pour ceux qui ont vu le film, que voilà, c'est tellement fort, tellement dense, tellement authentique que je crois que c'était mieux que des comédiens.
Et vous, en tant que médecin, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous souhaitiez transmettre à travers votre témoignage aussi, puisque vous êtes la figure un petit peu centrale autour duquel tous les patients gravitent ?
Alors, je n'avais pas franchement d'intention au début du film, mais ce que je remarque, c'est que ce documentaire a permis de montrer... De démontrer ce qui se passe dans une consultation comme celle-là et qui est en somme toute extrêmement simple. J'ai pu obtenir la réaction de pas mal de mes confrères qui m'ont dit qu'ils avaient enfin compris ce que je faisais et comment ça se passait. Même mes confrères ne pouvaient pas imaginer facilement ce qui pouvait se dérouler au sein d'une consultation de ce genre. Mmh. Et ben voilà. C'est un révélateur et je pense que ça c'est important. Je parlais de nouveaux chemins qu'on doit entamer et qu'on doit ouvrir. Ce genre de consultation, ça permet, je pense, d'améliorer vraiment grandement la qualité d'écoute et d'échange entre les malades et les médecins à propos de leur fin de vie.
Merci Agnès Lejeune et Dr François Damas.
Merci beaucoup.
On rappelle que le documentaire Les mots de la fin sera diffusé demain à 16h à la Parcheminerie à Rennes.
Alors ce sera quoi, maître ?
Syllabe, Radio Sauvage.
Alléluia, enfin !